France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Gwendoline Troyano, Christine Angers, Sacha Mattei et Barthélémy Gaillard, réalisé par Sam Bakias. Et à la technique ce matin, c'est Ludovic Auger. C'est le deuxième épisode de notre série consacrée aux diasporas chinoises partout dans le monde. Nous avons parlé hier des communautés chinoises en Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, en Europe, nouvelle génération, nouvelles aspirations. Et une fois n'est pas coutume, c'est en France, à Paris, que commence cette émission. La veille du nouvel an lunaire, les associations se préparent. Christine Angers de l'équipe de Culture Monde a baladé son micro dans le 13e arrondissement de la capitale et au Festival de nourriture asiatique.
Pour moi, c'est une fête extrêmement importante, plus importante que le 31 décembre ici, parce qu'on doit prier nos ancêtres. Et du coup, on leur rend hommage à chaque fois là-bas. C'est ça qui est le plus important dans le nouvel an. Et aussi de se rejoindre en famille et de se voir. C'est extrêmement important. Et quand j'étais au lycée, je séchais les cours juste pour célébrer le nouvel an.
C'est toujours très festif. Enfin, y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde. Tout le monde est waouh, émerveillé devant les lions qui dansent et tout. Enfin, c'est toujours un moment assez magique. Enfin, c'est à faire une fois dans sa vie.
Nous-mêmes, on a cette sensation d'être des produits un petit peu dilués. On a grandi en France, mais chez nous, on a vraiment grandi de façon plus proche de la culture asiatique. Donc on est nous-mêmes des produits dilués et en fait, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants.
Des produits dilués, tels la teinture dans l'eau pour celles et ceux qui sont là depuis plusieurs générations, descendants pour certains, des travailleurs chinois que l'Europe a fait venir par milliers lors de la Première Guerre mondiale, que ce soit pour des travaux de terrassement ou à l'arrière dans les usines pour la maintenance de matériel. 3000 d'entre eux étaient restés en France, par exemple, s'installant près de la gare de Lyon. Il y a eu ensuite plusieurs vagues d'immigration, charriant des personnes, des familles aux histoires toutes personnelles, pas toujours originaires des mêmes régions chinoises, voire ne parlant pas la même langue. En France, comme en Asie du Sud-Est dont nous parlions hier, il n'y a pas une diaspora, mais des diasporas chinoises et des générations qui se succèdent. Celles d'aujourd'hui sont plus engagées contre le racisme, par exemple, que leurs parents, et désireux de mieux connaître leurs racines, ces histoires intimes que leurs familles n'ont pas toujours jugé bon de leur raconter. Demain, pour le nouvel an lunaire, les différences s'estomperont le temps d'une fête dans les grandes villes françaises, allemandes, italiennes, espagnoles. Les communautés asiatiques, dont chinoises, célébreront le nouvel an lunaire et le passage à l'an 4723, ce qui ne nous rajeunit pas. Une fête du printemps, paraît-il, même si personne n'est dupe. Et les 12 animaux du zodiaque chinois, c'est le serpent qui est à l'honneur cette fois. Bonjour Simeng Wang.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS, spécialiste en études migratoires de l'Asie de l'Est et du Sud-Est vers la France. Vous travaillez aussi sur la sociologie de la santé et de la santé mentale et sur les questions de racisme et de discrimination. Bonjour Emmanuel Santaromana.
Bonjour,
et bienvenue à vous.
Pour l'invitation.
Mais nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous êtes doctorant au CESP, c'est comme ça qu'on dit, le Centre européen de sociologie et de sciences politiques à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et votre thèse porte sur les élus locaux d'origine asiatique en Île-de-France. Vous nous en parlerez. Mais donc on va beaucoup parler de ces diasporas chinoises à Paris, à Berlin, peut-être aussi à Barcelone et Florence. Est-ce qu'elles sont toutes principalement implantées dans les grandes villes d'ailleurs, pour tout de suite poser les choses et se demander si nos auditeurs qui ne sont pas parisiens peuvent aussi d'une certaine façon avoir accès à ces diasporas chinoises, Simeng Wang?
Effectivement, les grandes villes sont plutôt les destinations prioritaire, en tout cas d'installation, hein, pour ces personnes d'origine chinoise. Et en France, effectivement, on peut citer Paris, mais également Lyon et Marseille sont aussi des villes d'installation de cette population d'origine chinoise. Et il faut aussi néanmoins garder en tête que maintenant, avec vraiment la diversification des motifs migratoires, mais aussi des caractéristiques sociologiques de ces populations, donc on va y revenir tout à l'heure. Maintenant, le lieu d'installation de choix de ces personnes d'origine chinoise se diversifie également. Et donc, aujourd'hui, on peut aussi trouver des personnes d'origine chinoise qui s'installent en milieu rural, dans les vignes, par exemple, parce qu'il y a des aspirations différentes.
Selon les familles, selon les histoires de chacun. Alors, en milieu rural, que ce soit en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, Paris pour beaucoup, et je crois qu'en France, ce sont 60% des Chinois de France qui vivent en région parisienne, et parmi eux, 40% à Paris intramuros, mais sinon, on les trouve à Pantin, Stein, Ivry, Villejuif, beaucoup à Marne-la-Vallée, d'ailleurs, paraît-il, puisque dans les années 70-80, il y avait des incitations à l'achat. À Paris, si on reste à Paris un instant, Si Meng Wang, où le nouvel an lunaire va être fêté comme dans toutes les capitales européennes, est-ce que les célébrations ressemblent à ce qu'elles étaient il y a encore 10 ans, ne serait-ce que sur la carte en fait des arrondissements où la fête aura lieu?
Dans les années 80, par exemple, à Paris, le défilé du nouvel an lunaire se manifeste dans un premier temps dans le 13e arrondissement, qui est considéré comme, souvent on l'appelle Chinatown, mais en réalité c'est vraiment un quartier asiatique, qui est d'ailleurs le quartier asiatique le plus grand d'Europe. Mais au fil du temps, là maintenant, le nouvel an chinois se manifeste également, s'organise aussi dans le 3e arrondissement, à Belleville, dans le 8e arrondissement. Et moi, en tant qu'habitante du 10e arrondissement, j'ai appris il y a quelques années que au sein de la mairie du 10e, il y a souvent une cérémonie de célébration du nouvel an chinois, avec les commerçants et les entrepreneurs d'origine chinoise qui se sont installés dans le quartier.
Sur la façon de célébrer la fête, elle ne change pas tellement, et on entend de génération en génération les traditions se succéder, comme on l'entendait au début de cette émission. Mélina, par exemple, a raconté à Christine Angers, il y a toujours des pétards pour faire peur aux mauvais esprits, ça c'est sûr, et puis des raviolis, bien sûr.
Quand j'étais petite, j'aimais bien faire les raviolis, etc. Enfin, c'est toujours un moment convivial, parce que du coup, il y a toute la préparation. Enfin, nous, on n'achète par exemple pas la pâte faite, on la fait nous-mêmes. Il y a vraiment toute la préparation, la pâte, il faut la faire, il faut la pétrir, il faut la laisser reposer, la viande, il faut la couper, les légumes, il faut mélanger. Du coup, c'est un process aussi qu'on apprend. Enfin, moi, j'ai beaucoup appris quand j'étais petite avec ma nounou. J'ai aussi appris une fois quand je suis partie en colonie de vacances, on faisait aussi des raviolis. C'était une activité, j'ai appris avec ma mère, j'ai appris à mon petit frère. Enfin, c'est aussi tout un geste, une tradition. Ça, c'est un truc que moi, j'ai toujours apprécié faire.
C'était ça qu'on voulait vous faire entendre, le fait que ça se transmette vraiment de génération en génération. Emmanuel Santaromana, parmi toutes les associations de la diaspora chinoise qui existent à Paris, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y en a certaines en particulier qui s'occupent de centraliser en quelque sorte l'organisation de la fête?
Historiquement, le défilé du 13e arrondissement est organisé par la FOI, qui est l'association des résidents français d'origine indochinoise, d'origine Tchou, mais aussi de l'amicale de Tchou de France, qui est une association qui s'est créée en 1986, et qui est d'ailleurs la date du premier défilé dans le 13e arrondissement.
Donc d'emblée, vous nous donnez quelques noms des communautés chinoises qui existent à Paris, car elles sont diverses. Il y a la communauté Wenzhou, beaucoup à Paris Centre, je crois que c'est elle qui organise le défilé. Elle vit surtout à Belleville, dans le 3e arrondissement. Il y a aussi cette amicale des Tchou dont vous nous parliez, Emmanuel Santaromana. Il faut donc, pour expliquer tout de suite quelle est la diversité de cette diaspora, ces diasporas chinoises en France, raconter comment elle s'est construite par couches successives. Emmanuel Santaromana, Romana, de la même façon qu'il y a des diasporas chinoises en Asie du Sud-Est, il y a des diasporas en France. Comment tout ça a commencé?
Vous en avez parlé tout à l'heure, il y a la première vague qui correspond aux travailleurs chinois de la guerre 14. Puis il y a eu en fait une immigration indochinoise du fait des guerres du Vietnam et de l'arrivée de Pol Pot au Cambodge. Et c'est ce qu'on a appelé les boat people, un peu exagérément, puisqu'une certaine partie des gens sont arrivés en avion. Pour la majeure partie de ces gens, en fait, ils faisaient partie des communautés chinoises dans ces pays d'Asie du Sud-Est. Et ils sont arrivés en France et ils sont principalement Tchou, de la région de Shaozhou, en Chine. Et la deuxième vague ou troisième vague correspond à l'arrivée des Wenzhou dans les années 90, qui est plutôt une immigration économique.
Ah, c'est la troisième vague. Je pensais que c'était la première. Vous voyez, si Meng Wang, puisque ce sont les plus nombreux aujourd'hui en France, tous ceux qui sont originaires de la région de Wenzhou, qui est à quoi, 400 kilomètres au sud de Shanghai à peu près, qui sont celles et ceux qui ont décidé de quitter un jour ce qui n'était pas une grande ville comme aujourd'hui, mais vraiment un tout petit village à l'époque.
Exactement. Wenzhou était un petit village à l'époque, et aujourd'hui Wenzhou est une ville qui a 9 millions d'habitants. Donc vous voyez, je pense qu'il faut aussi situer en fait l'histoire d'immigration chinoise vers le monde, vraiment dans le contexte socio-économico-politique du développement de la Chine, qui a connu un essor économique assez rapidement. Pour revenir un peu sur l'arrivée des Wenzhou en France, c'est très ancien, ça date d'avant la Première Guerre mondiale, parce que c'est une région où il y a beaucoup de tailleurs de pierre, de petits artisans, etc. Du coup, qui était venu en fait en Europe de façon complètement individuelle. Et ensuite, il y a la Première Guerre mondiale, et durant la Première Guerre mondiale, effectivement, 140 000 Chinois ont été recrutés en Europe, notamment pour soutenir la France et aussi le Royaume-Uni. Et après la Première Guerre mondiale, effectivement, 3 000 sont arrivés. Mais ces 140 000 Chinois recrutés en Chine proviennent plutôt de la province de Shandong. Donc, pas forcément de la région de Wenzhou. Wenzhou est une ville, comme on l'a rappelé, qui se situe aujourd'hui dans la province de Zhejiang, qui se situe justement au sud de Shanghai. Mais il y a effectivement une masse de personnes de Wenzhou qui sont restées en France, du coup, pour plus de 100 ans. Donc, c'est pour ça que c'est très ancien. Et en même temps, pour revenir sur ce que Emmanuel a dit, ce n'est pas non plus incorrect, dans le sens où, en fait, justement, avec l'ouverture de la Chine, fin des années 70, vous avez beaucoup parlé de Deng Xiaoping hier, etc., il y a un engouement de la part de la population chinoise de tenter de s'enrichir économiquement à l'étranger. Donc, il y a un phénomène assez massif d'émigration de la Chine vers les pays notamment européens et développés. Et là, parmi ces migrants économiques non qualifiés, en tout cas non qualifiés en tant que migrants qualifiés reconnus dans le pays d'installation, ils figurent massivement les personnes venant de la région de Wenzhou. Et donc,
des personnes de la région de Wenzhou qui vont rejoindre pour certains d'autres personnes de la région de Wenzhou qui sont déjà installées en Europe, et des réseaux de solidarité se nouent ainsi. Alors, à distinguer donc, comme vous l'avez fait, Emmanuel Santaromana, de tous ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard, ou un petit peu plus tôt, mais en tout cas dans les, c'est beaucoup plus daté, c'est dans les années 70 jusqu'à la fin des années 80, ce sont tous ces migrants d'origine chinoise, mais passés entre temps, on parle de ça il y a 4 siècles, donc leurs aïeuls par le Vietnam, le Cambodge ou le Laos, et qui se sont massivement dirigés vers l'Europe quand c'est leur pays où ils vivaient était en guerre. Ici, en septembre 87, le présentateur d'Alsace Soir, quelque peu lyrique.
S'il y a une Europe qui nous déçoit parfois par sa lenteur ou sa bureaucratie, il ne faudrait pas oublier qu'il y en a aussi une autre. Celle où vivent aujourd'hui ces réfugiés du Vietnam, par exemple, ces Boat People que le président Plumb accueillait ce matin au Parlement. Cette Europe-là, ils ont risqué leur vie pour l'atteindre dans les 10 dernières années. C'est l'Europe des droits de l'homme et de la liberté. Ils sont aujourd'hui des centaines de milliers à vivre ainsi à Oslo, Londres ou Mulhouse. Ils étaient une trentaine à Strasbourg. C'était ce matin, en marge de la session parlementaire, mais indiscutablement l'un des temps forts de la semaine.
Donc des milliers de Tchou, donc d'origine chinoise qui arrivent à l'époque, à ce moment-là en Europe, à distinguer des Wenzhou, Emmanuel Santaromana, à distinguer comment, c'est-à-dire est-ce que outre le fait qu'ils n'ont pas le même pays d'origine, enfin là où ils vivaient, est-ce qu'ils ont un autre bagage professionnel, culturel? J'imagine qu'ils parlent beaucoup plus français déjà, puisqu'ils vivent dans d'anciennes colonies françaises.
Alors il y a deux choses. D'une part, effectivement les Wenzhou dont Semen Wang parlait sont des ouvriers avec un bagage social relativement peu élevé. Les Tchou, en fait, dans ces pays Vietnam, Laos, Cambodge, ils faisaient partie de l'élite économique, en fait. Et quand ils sont arrivés en France, on peut dire qu'ils ont été déclassés économiquement, mais ils avaient toujours leur capital social, leur capital politique et économique. Économique, ils l'ont perdu, mais en tout cas, la tradition de savoir faire de l'argent en tant que commerçants dans ces pays d'Asie du Sud-Est qu'ils ont reproduit en France.
Ouais, si Meng Wang, s'ils ont un bagage culturel, économique parfois un peu plus élevé que les Wenzhou, est-ce qu'ils portent sur les Chinois d'origine Wenzhou qui sont déjà en France à ce moment-là ou en Europe un regard un peu distancié, critique, ou est-ce que ils se mélangent tous et avec cette solidarité qu'on peut attendre de ceux qui sont là depuis plus longtemps?
Oui, effectivement, ce qu'on a pu observer, c'est il y a vraiment des phénomènes de regroupement social en fonction de l'origine régionale finalement, et aussi même de l'origine nationale, parce que ce sont les personnes réfugiées du sud-est asiatique, ils sont venus avec leur passeport de ces pays de l'Asie du Sud-Est. Et effectivement, comme ce qui a été apporté hier dans votre épisode, c'était très clair, c'est-à-dire que comme les phénomènes migratoires intra-asiatiques est tellement ancien, cela remonte à il y a plus de 2000 ans, effectivement, l'installation des populations chinoises dans ces pays de l'Asie du Sud-Est est un phénomène très qui date de très longtemps, et donc les personnes d'origine chinoise installées dans ces pays en Asie du Sud-Est sont aussi plutôt des personnes dotées de capital culturel, dotées de capital économique, etc. Et donc effectivement, c'est vraiment une population élite. Et d'ailleurs, s'ils ont pu aussi partir relativement vite en France, ce sont aussi des personnes qui maîtrisent déjà très bien français, alors que dans le cas de la population de Wenzhou, rares sont déjà diplômés du supérieur en Chine. Certains, sur mon terrain, je rencontre certaines familles venant de Wenzhou qui n'ont même pas fini le lycée ou le collège. Et donc sur le plan sociologique, là, on voit qu'il y a une très très nette distinction d'un point de vue de l'origine sociale.
Avec aussi des aspirations qui diffèrent, et on va progressivement arriver à cette question des aspirations des nouvelles générations aujourd'hui, mais il faut, pour que le paysage entre guillemets soit complet, Emmanuel Santaromana, et que l'on comprenne bien toutes ces diasporas différentes chinoises en Europe qui se sont succédées les unes aux autres, et juste un petit mot pour parler aussi des Tetsu dont vous parliez l'un et l'autre, qui viennent des pays d'Asie du Sud-Est. Les frères Tang par exemple sont eux-mêmes originaires du Laos, même si ils se présentent comme chinois, ils sont chinois originaires du Laos, ils font partie de ces Chinois qui sont arrivés par vagues lors des guerres dans les pays qui étaient en guerre et qui ont obtenu le statut de réfugiés politiques d'ailleurs à ce moment-là. Emmanuel Santaromana, une dernière vague migratoire chinoise en France, ce sont les Dongbei. Alors c'est encore autre chose, ça date de quand?
Alors,
c'est
beaucoup plus récent. Les Dongbei, on peut dire que ça a commencé dans les années 2000, et il s'agit en fait d'une émigration économique aussi. Il faut savoir que depuis que la Chine a décidé de faire sa transition écologique, elle a fermé des dizaines et des dizaines et des dizaines de mines de charbon dans la région du Dongbei, avec des millions de personnes qui se sont retrouvées au chômage, hein, dans l'industrie de la sidérurgie en particulier. Et ce sont surtout des femmes seules qui sont venues en France travailler pour envoyer de l'argent à leur famille. Elles se retrouvent dans des situations souvent délicates, avec une immigration vraiment difficile, et elles sont en l'occurrence souvent sans papier et travaillent dans des conditions de semi-exploitation pour la plupart, et parfois même dans la prostitution dans le 19e ou dans le 13e arrondissement.
Donc ce sont sans doute parmi les plus visibles, mais pas les plus nombreuses en l'occurrence, puisque ce sont beaucoup de femmes seules qui sont arrivées, Si Meng Wang, avec aussi de la part des communautés chinoises qui étaient déjà implantées là une forme de jugement ou une solidarité.
Il y a un peu les deux, et je vais y revenir, parce que effectivement il y a déjà des phénomènes de l'exploitation professionnelle, hein, qui ont été observés et travaillés par mes collègues sur le marché du travail, plutôt qui se construit à l'intérieur des réseaux ethniques chinois. Et donc effectivement, il y a des employeurs venant plutôt de Wenzhou, etc., qui exploitent professionnellement ces femmes venant de Dongbei, par exemple. Mais je voulais revenir un petit peu en arrière, parce que effectivement, on a parlé encore une fois, hein, si on veut comprendre l'immigration, on peut pas ne pas comprendre l'immigration. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en Chine? Et tout à l'heure, on a parlé de Deng Xiaoping qui a lancé réforme, l'ouverture de la Chine fin des années 60. 70. Et donc, cela a donné vraiment la possibilité aux Chinois du continent, notamment de Wenzhou, mais aussi des Dongbei, de pouvoir partir de la Chine et s'enrichir économiquement à l'étranger. Et j'ajoute un autre élément structurel qui est très important aussi, c'est en 2001, la Chine a rejoint l'Organisation mondiale du commerce. Et là, ça a vraiment donné un boom au secteur de l'import-export. La Chine est devenue davantage l'usine du monde. Et donc, c'est pour ça que finalement, ces flux migratoires économiques non qualifiés, ça a commencé dans les années 80, mais ça s'étend. Jusqu'au début des années 2000. Et un moment tournant qu'on a pu regarder, qu'on a pu observer, c'est aussi jusqu'à l'année 2008, là, quand la Chine a organisé les Jeux des Olympiques, hein, les Jeux Olympiques. La Chine, tout d'un coup, est devenue vraiment sous le projecteur des regards du monde entier. Et donc, avec beaucoup de l'essor économique encore plus important, etc. Et donc, en quelque sorte, je dirais que jusqu'à l'année 2008, il y a toujours ce flux en continu de migration économique sans qualification parce que les gens tentent leur chance de s'enrichir économiquement.
Inspirés par les parcours aussi de ceux qui les ont précédés en France et notamment les Wenzhou qui, pour certains, vous le disiez, exploitent aussi économiquement ces femmes venues de Dongbei, j'allais dire jeunes femmes, mais certaines le sont moins et ont tenté leur chance sans avoir de famille ici en France et arrivent à leur ouvre des salons d'esthéticiennes ou se lance dans la prostitution. Enfin, quand je dis se lance, c'est qu'elles y sont bien sûr obligées. Alors, ne parlent pas la même langue aussi que ceux qui sont déjà là, ce qui rend les choses plus compliquées. Mais est-ce que, pour ne pas être caricatural, Simeng Wang, est-ce qu'il faut d'abord poser comme préalable que les réseaux de solidarité, d'entraide entre les communautés chinoises ici en France ne sont pas que basés sur les origines, qu'elles soient je dirais presque ethniques, mais géographique, social. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux qui se créent entre eux, Wenzhou, Techu, Dongbei?
Et ce sont des réseaux qui de solidarité et d'entraide qui se sont construits, je dirais, bien sûr au fil du temps, mais accélérés par aussi la pandémie de Covid. Et donc, pendant le temps de la pandémie, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une mobilisation diasporique assez importante au sein de la population chinoise. Et par exemple, pour les envois des matériaux médicaux, des médicaments, il y a aussi effectivement encore aujourd'hui des migrants d'origine chinoise qui vivent en précarité, notamment effectivement, même si les sans-papiers chinois sont devenus de moins en moins nombreux, mais il y en a encore. Et durant la pandémie de Covid, on a pu observer, faire des monographies justement dans l'espace public et aussi ethnique. On s'est rendu compte qu'il y a des commerçants, juste pour vous donner un exemple concret, il y a des commerçants wenzhounais qui ont proposé de collecter des fonds pour s'approvisionner des nourritures et du coup qui distribue des sacs de nourriture aux autres Chinois, aux autres compatriotes chinois qui vivent en précarité, dont beaucoup de personnes sans papier chinoises venant d'autres régions, bien évidemment, de Wenzhou. Et là, vous voyez, cela vient nuancer un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur, justement, exploitation professionnelle, économique, etc., au travail. Néanmoins, avec aussi quand on est tous face à une crise sanitaire majeure, il y a quand même des tentatives de solidarité qui se sont finalement produites.
Donc des grands mouvements de solidarité pendant le Covid, mais aussi une forme de confrontation de toute la communauté chinoise de France, sans distinction là entre les différentes origines, du racisme anti-chinois qui s'est manifesté pendant le Covid. Beaucoup en ont témoigné, par exemple dans ce documentaire qui vient d'être diffusé sur France Télévisions, réalisé par la journaliste Émilie Tran Nguyen, cette sage-femme qui témoigne.
C'est là où j'ai eu des patientes qui n'ont pas forcément voulu de moi comme soignante. Par exemple, une des scènes qui m'avait surprise, je venais d'accueillir une patiente qui venait pour des contractions et il y avait ma collègue qui était là juste avant qui du coup devait partir et du coup c'était moi qui faisais le relais. Et dès qu'ils m'ont vu, ils sont allés réclamer des masques. Et je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit bah parce que c'est dangereux le Covid. J'ai fait oui mais vous en aviez pas avant. Et ils ont répondu bah vous êtes là. J'ai dit comment ça je suis là. Bah vous Covid. C'est la période où j'étais vraiment le plus mal concernant mon origine. le racisme anti-asiatique est devenu quelque chose de normal. Où les gens, en fait, n'ont pas honte de dire qu'ils ont peur des Chinois.
Et il y a eu tellement de témoignages dans ce sens que la défenseure des droits a commandé une enquête sur le sujet il y a 2 ans, enquête à laquelle vous avez contribué, Simeng Wang. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, et je vous pose la question à tous les deux, que chez les nouvelles générations de personnes qui sont d'origine asiatique, qui vivent en France pour certaines depuis longtemps, pour d'autres qui sont installées plus récemment, mais en tout cas qu'il y a cette volonté de ne plus laisser faire, est-ce que c'est quelque chose qui a changé d'une génération à l'autre? Peut-être d'abord Simeng Wang, puis Emmanuel Santaromana.
Oui, effectivement, la pandémie de Covid a vraiment joué un rôle catalyseur dans la conscientisation du racisme anti-asiatique chez les personnes concernées, mais également chez les personnes concernées, ça signifie en fait toutes les personnes d'origine chinoise, à la fois les descendants et descendantes nés en France, issus de l'immigration chinoise, mais également les primo-arrivantes. Qui sont effectivement dans l'histoire qu'on a vraiment balisée là jusqu'ici sur l'histoire des vagues migratoires chinoises. Effectivement, il y a des personnes qui sont plutôt migrants économiques sans qualification, mais récemment, depuis 20 ans, on voit aussi l'arrivée massive des étudiants, étudiantes, des personnes diplômées. Et donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très important à garder en tête, parce que à partir de la pandémie de Covid, on voit que il y a deux groupes sociaux les plus actifs dans la lutte antiraciste, dont le premier groupe, c'est vraiment des descendants et descendantes qui sont des acteurs premiers, actrices premiers pour contribuer à la lutte antiraciste. Et à côté, des primo-arrivants qualifiés qui sont passés par les universités françaises, par les grandes écoles, et du coup qui essayent de s'organiser, aussi se mobiliser pour, il y a eu des vidéos, il y a des podcasts, il y a beaucoup de tentatives, notamment de nature audiovisuelle, qui ont été créées, initiées par ces personnes d'origine chinoise. Du coup, c'est vrai que en termes de temporalité, de conscientisation, c'est pas la même chose, parce qu'ils n'ont pas vécu le même processus de socialisation raciale, vous voyez, parce que pour les descendants et descendantes, ils sont nés en France, ils ont déjà l'habitude de vivre leur racisme ou discrimination raciale depuis leur jeune âge, et d'ailleurs c'était aussi un des résultat triste qu'on a pu constater avec l'enquête Ractasi du Défenseur des droits, c'est que finalement les gens qui sont nés en France, ils connaissent le racisme anti-asiatique très très tôt. Alors que pour les primo-arrivants qui sont qualifiés, qui sont nés en Chine ou plus largement en Asie, c'est pas du tout ils connaissent pas les mêmes environnements sociaux. Pour même nommer le racisme, ils n'utilisent pas forcément les mêmes termes.
Ils n'utilisent pas les mêmes termes et parfois les mots leur manquent tout simplement. Vous écrivez dans cette étude que le racisme est souvent passé sous silence par les victimes elles-mêmes, du fait notamment de la faible maîtrise de la langue française chez certains, mais aussi de la logique de survie. Ceux qui sont arrivés là pour s'en sortir et qui ne comptent pas en partir, donc se font les plus petits possibles. Alors ce racisme anti-chinois n'est pas une vue de l'esprit. Pour citer quelques affaires rapidement, il y a eu juste après le Covid, 5 utilisateurs de Twitter, c'était 5 étudiants qui avaient été jugés pour appel à la haine contre les Chinois. Dès le premier jour du confinement, ils avaient envoyé des messages sur les réseaux sociaux. Alors, ils ont été condamnés à un stage de citoyenneté de 2 jours parce qu'ils ont dit que c'était pour charrier des amis, etc. Et puis, la justice avait aussi retenu la circonstance aggravante du racisme lors de la mort en 2016 d'un couturier chinois agressé à Aubervilliers, Chaolin Zhang. Alors, vous, Emmanuel Santaromana, qui travaillait spécifiquement sur les élus locaux en Île-de-France d'origine chinoise, d'origine asiatique, mais d'origine chinoise, est-ce qu'on peut déjà dire à peu près combien ils sont ou ça ne se recense pas de toute façon? Et surtout, s'ils vous parlent du racisme anti-chinois comme d'un des sujets qu'ils défendent politiquement, qu'ils se font fort de défendre, ou au contraire qu'ils préfèrent taire?
Alors, c'est intéressant parce qu'au-delà de défendre le sujet, la lutte antiraciste sert de plus ou moins de tremplin et de lieu de d'espace de socialisation politique, c'est-à-dire que dans ces associations antiracistes, ils apprennent à parler aux médias, ils sont en contact avec les autorités, avec les commissariats, avec les acteurs politiques de leur quartier. Et de ce fait, ils sont, pour les leaders de ces associations, plus ou moins repérés par le milieu politique, qui a besoin de diversité dans son espace politique lors de la création des listes électorales, et vont souvent chercher ces leaders communautaires pour faire partie des listes électorales. Donc vraiment, cette lutte antiraciste, elle sert vraiment de tremplin à l'engagement politique au sens métier politique.
Est-ce que vous avez pu aussi vous rendre compte dans d'autres, parce que là on parle beaucoup de Paris depuis tout à l'heure et de la France, et dans Culture Monde on essaye aussi d'élargir un petit peu, et c'est à moi de vous emmener sur ces terrains-là, mais dans d'autres villes et capitales européennes ou grandes villes européennes où les communautés chinoises sont assez fortes, que ce soit je pense à Berlin, mais aussi dans certaines villes italiennes ou en Espagne, est-ce que vous avez observé le même degré de politisation entre guillemets, ou est-ce que ça se fait de façon très différente selon les pays où ils se sont installés?
Alors je suis pas un grand spécialiste de l'Italie, mais j'ai l'impression que c'est un phénomène essentiellement parisien. On retrouve la même chose, par contre, au Canada et aux États-Unis, où la politisation des communautés asiatiques est très forte. Ce que j'ai remarqué dans des villes comme Berlin ou l'Espagne, c'est plutôt des associations politisées dans la lutte antiraciste, c'est-à-dire des associations qui dans l'objet est la lutte antiraciste, mais de manière beaucoup plus politique que ce qui se passe en France. Mais il ne s'agit pas d'intégration du milieu politique.
C'est-à-dire quand vous dites de façon différente, vous voulez dire quoi ?
Peut-être plus radical dans le sens de l'expression.
Même artistique en fait.
Artistique, oui, c'est ça. Voilà, il y a un mélange artistique de performance. Je pense à deux associations. Une association à Berlin, malheureusement le nom m'échappe.
C'est pas grave.
Et une association à Barcelone qui sont à la fois des associations artistique et de lutte antiraciste.
Simen
Wang. Oui, je pense que c'est une très 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 bonne question, très intéressante. Et encore une fois, je pense que pour comprendre ce phénomène de lutte antiraciste menée par les personnes d'origine chinoise, il faudrait situer ces luttes dans le paysage démographique des immigrations chinoises en Europe. Dans le sens, en fait, si on compare la France avec l'Espagne, ce que on voit, c'est que démographiquement, les descendants et descendantes d'origine chinoise ont environ 10 ans de moins que les descendantes d'origine chinoise vivant en France.
Donc les immigrations sont plus tardives, vous voulez dire ?
Pas spécialement. Il y a un effet démographique qui se crée, et donc si du coup cela joue sur notamment l'insertion professionnelle de ces descendants et descendantes, dans le sens en fait, si on regarde combien de journalistes dans les médias mainstreaming qui sont d'origine chinoise en Espagne, et on compare avec le cas en France. En France, ils sont encore très très peu nombreux, mais en Espagne, c'est encore moins. Et vous voyez, donc, il y a aussi une maturité dans la façon de mener des actions collectives. Et donc, ce qu'on voit lorsqu'on discute avec des collègues espagnols qui travaillent sur l'immigration chinoise en Espagne, c'est que là, les descendants et descendantes, ils apprennent énormément auprès des descendants et descendantes d'origine chinoise vivant en France. Donc, comme s'il y a aussi beaucoup de circulation transnationale de des outils de lutte. Et bien évidemment, comme disait tout à l'heure Emmanuel Santaromana, il y a aussi déjà de la France, on apprend auprès du Canada, on apprend des États-Unis, etc. Donc vous voyez, les outils, les concepts de lutte, etc., ça circule aussi à l'échelle transnationale.
Et, il y a aussi des communautés chinoises en Europe de l'Est, et pas seulement en Hongrie, où Viktor Orban a développé récemment des relations avec Pékin, des communautés chinoises aussi beaucoup implantées depuis beaucoup plus longtemps, Emmanuel Santaromana, dans les pays anciennement de l'Union soviétique, qui étaient alliés à Pékin à l'époque.
Alors c'est vrai que dans qu'on appelait les pays frères en Europe de l'Est, il y avait des programmes avec la Chine pour déplacer des travailleurs chinois vers ces pays de l'Est. Il y en a eu beaucoup en Serbie, il y en a eu pas mal en Tchécoslovaquie et en Pologne. La plupart sont repartis, mais certains sont restés. Et effectivement, ce sont des petites communautés, mais ce sont tout de même des communautés qui, étonnamment, vivent dans ces pays d'Europe de l'Est.
Et est-ce que beaucoup demandent la nationalité dans leur pays d'accueil ? Et donc, c'est une manière aussi, Simen Wang, de vous demander le rapport que les... Alors, c'est toujours très difficile de faire des généralités, mais que les communautés, les diasporas chinoises entretiennent aussi avec leur pays d'origine, la Chine. C'est-à-dire à la fois avec leur pays d'accueil et avec leur pays d'origine.
Effectivement, pour y répondre, je pense qu'il faut encore une fois faire une distinction d'un point de vue de génération migratoire. C'est-à-dire que effectivement, pour les premiers arrivants et premières arrivantes qui sont nés en Chine, qui sont venus en Europe avec un passeport chinois, effectivement, comme la double nationalité n'est pas admise par le gouvernement chinois et le choix de naturalisation est toujours un choix difficile pour beaucoup de premiers arrivants, parce que notamment pour ceux qui se lancent dans les commerces internationaux, notamment de l'import-export, ce qui leur apporte comme des ressources, c'est aussi la ressource, la nationalité comme ressource, voyez. Mais si on regarde vraiment des descendants et descendantes, là c'est vraiment cas par cas. Si on compare par exemple la France et l'Italie, la différence est énorme, dans le sens où en fait les descendants et descendantes nés en Italie, très peu d'entre eux choisissent la nationalité italienne.
Pourquoi ?
Parce que l'économie en Italie va tellement mal, en tout cas c'est le discours en tout cas qu'on a pu collecter sur le terrain ou raconté par d'autres collègues qui travaillent sur l'immigration chinoise en Italie. Et donc pour ces descendants et descendantes, l'avenir professionnel se dessine à l'échelle transnationale et notamment pour beaucoup en Asie. Et donc, la nationalité italienne n'est pas attirante et cela aussi biaise justement la lutte antiraciste de ces personnes d'origine chinoise vivant en Italie. Donc, pour faire le lien entre les deux.
Avec pour beaucoup donc une projection, enfin une non-projection à long terme en Italie, mais peut-être retourner un jour en Asie, pas nécessairement en Chine, mais en Asie pour travailler. Dans quelle mesure Emmanuel Santaromana, les membres des diasporas chinoises en France ou en Europe revendiquent une identité chinoise et quelles relations entretiennent-elles avec la Chine ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un besoin ressenti d'y aller, tout simplement, en Chine, pour ceux qui sont nés en France, de se raconter leur histoire familiale ? Est-ce que ce besoin est exprimé parmi tous ceux que vous rencontrez ?
Ben, je crois qu'on l'a entendu dans le premier reportage que vous avez diffusé. Il y a une recherche d'identité, évidemment, puisque ces gens vivent un sentiment de double culture. Alors, à savoir si la double culture existe réellement, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ressentent. Ils parlent souvent de double culture. Et aussi, pour ce qui est des Chinois d'origine indo-chinoise, leurs parents leur ont très très peu parlé de leur parcours émigratoire et de ce qui est arrivé dans leur pays d'origine, à savoir le Vietnam et le Cambodge. Et c'est vrai que la seconde génération est en recherche d'histoire familiale et a tendance à retourner au Cambodge, au Vietnam, pour des voyages qu'on pourrait qualifier d'initiatiques ou de recherche des origines, chose que les parents n'ont pas fait. La plupart des parents ne sont jamais retournés au Cambodge.
Donc c'est une de ces nouvelles aspirations des nouvelles générations, c'est entretenir cette double culture, comme le fait par exemple l'association des jeunes chinois de France, dont fait partie Sophie Song.
Au tout début, ils étaient très réticents, surtout mon père. Il disait « Non, c'est une association qui n'est pas sérieuse. » C'est en fait cette image un peu de secte, communauté. Et au final, en voyant les actions que je faisais, il s'est dit « Ah non, mais en fait, c'est une bonne chose que tu fais de transmettre, de partager, de réunir des personnes en fait, comme nous, en fait, qui est née en France. » Et en fait, qui perd cette histoire. Et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne s'y intéressent pas. Ou au moins, si on ne plante pas cette petite graine d'aller chercher la curiosité de découvrir, enfin, ça vient pas en fait comme ça.
Alors certains jeunes qui ne s'y intéressent pas, d'autres qui au contraire s'y intéressent beaucoup, comme elle, Sophie Song, ou tous ces jeunes dont vous nous parliez, Emmanuel Santaromana, Simon Wang, si les générations se parlent, les aspirations aussi, c'est-à-dire est-ce que les aspirations des plus jeunes aujourd'hui réussissent à convaincre aussi les parents, les grands-parents de s'intéresser eux aussi à nouveau à cette histoire-là ? Est-ce que ça fait bouger les lignes ?
Oui, effectivement, je pense qu'on peut parler de la pluralité d'aspirations des personnes nées en France, donc les descendants et descendantes d'origine chinoise. Là, on a beaucoup parlé justement d'identification, ce quête de soi, qu'est-ce que je suis tout en étant née en France, etc. Donc c'est double, voire triple ou multiple appartenance culturelle. Et en même temps, quand on regarde vraiment ces personnes, ces groupes, ce sont des citoyens et citoyennes françaises à part entière. Ce sont des et donc c'est aussi une nouvelle génération qui revendique davantage leurs droits à part entière en France. Ce sont des personnes qui veulent justement instaurer une plus juste représentation sociale hein, des personnes d'origine chinoise ou plus largement d'origine asiatique dans la société française. Ce sont des personnes qui veulent lutter pour plus de justice sociale. Hein, donc, et je pense que ça fait partie aussi de leur aspiration. C'est-à-dire que l'aspiration ne se limite pas uniquement en lien avec leur origine ethnique. Vous voyez, ce sont des gens qui veulent aussi avoir des mobilités sociales comme toute personne française au travail et là on parle beaucoup de plafond de verre par exemple au travail etc. Et donc là ce sont aussi des phénomènes qui sont non négligeables et en croissance
et universels. Britannique Gorillaz et sa chanson Dirty Harry, remixée spécialement pour le nouvel an lunaire, c'était en 2006, avec des paroles et des chœurs en chinois qui disent par exemple « Comment une année peut-elle passer si vite ? Un animal s'est enfui, il y en a 11 autres qui font la queue. Cette année, ce sera le serpent de bois. » Dès demain, en fait, est le nouvel an lunaire célébré par plusieurs pays asiatiques et en particulier par les diasporas chinoises qui sont au cœur de notre série cette semaine. Nous sommes avec nos invités Emmanuel Santaromana et Simeng Wang qui nous ont parlé des aspirations des nouvelles générations installées en Europe. Nouvelles générations qui se savent par ailleurs largement surveillées depuis Pékin.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Les médias en langue chinoise ne manquent pas pour les communautés chinoises installées en Europe. Chaînes de télévision, journaux, souvent contrôlés par la Chine. Tout comme l'application WeChat qui est aussi un terrible objet de surveillance. Bonjour Pierre-Antoine Donnet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef du trimestriel Asia Magazine qui est tout nouveau. On en parlera à la toute fin. D'abord, est-ce que tous les médias en langue chinoise qui diffusent en Europe sont orientés par Pékin en faveur du régime chinois ? Est-ce que tous les journaux sont faits depuis la Chine ?
Alors, ils sont pas faits depuis la Chine, mais pour vous expliquer en gros l'évolution de justement de la présence de ces médias, il y a trois décennies, il y avait en version papier deux magazines qui étaient l'un plutôt orienté vers Taïwan et l'autre orienté vers la Chine populaire.
Donc il fallait choisir son camp, entre guillemets, les lecteurs.
C'est ça, donc il y avait le Hojo Sheba et le Hojo Jeba. Le Hojo Jeba pro-Taïwan a disparu, ça fait quelques années, donc au profit de celui qui reste, qui est Hojo Sheba, et qui est donc, à mon sens, un instrument de propagande du Parti communiste chinois.
Parce que quel genre d'informations on y trouve ? Est-ce que ce sont des informations qui concernent spécifiquement la Chine, ou il y a aussi des informations sur les pays d'accueil ?
Alors le Hojo Sheba, donc, il diffuse encore une version papier, mais aujourd'hui, les versions papier sont de moins en moins lues, mais surtout, il a une version numérique dans différentes langues. Alors, il y en a une en français, il y en a une en anglais et il y en a une en chinois. Et non, ça n'est pas, quand on le regarde quelques minutes, on ne voit pas que c'est en fait un support politique qui sert les intérêts de la Chine populaire. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'informations pratiques et des informations quotidiennes qui sont pour certaines anodines, mais se mêlent dans ce langage quotidien aussi, bien entendu, des messages politiques.
Du style ?
Oh ben, du style, vanter les mérites du régime de Xi Jinping, de montrer à quel point que la Chine marque des points dans tous les domaines, que ce soit économique, technologique et autres.
Alors que les pays d'accueil sont souvent présentés comme un peu, non pas à la ramasse entre guillemets, pour rester dans le registre un peu économique, mais aussi parfois un peu presque dangereux, antidémocratique, enfin une sorte de retour à l'envoyeur.
Alors si vous laissez quand même, bien sûr, fabriqué de façon intelligente, il n'y a pas de, je dirais, de cabale contre le pays où vivent ces communautés chinoises. De ce que je vois, il n'y a pas d'attaque frontale contre le régime français ou le gouvernement français. Mais il y a des messages subliminaux qui permettent au lecteur, effectivement, d'entendre effectivement des critiques plus ou moins ouvertes.
Mmh. Bon, on peut aussi entendre les critiques qui viennent d'ailleurs, mais en tout cas, là où on peut voir peut-être une politisation encore plus importante, c'est par l'application qu'on appelle WeChat. C'est cette application dont l'icône est un fond vert avec deux petites bulles, c'est une messagerie. 1 milliard d'utilisateurs dans le monde, est-ce qu'on sait combien en Europe, en France ? Enfin, est-ce qu'il y a des chiffres là-dessus ou pas, Pierre-Antoine ?
Alors écoutez, donc, en chinois, c'est Weixin, et Weixin, c'est micro-message. Et donc, en fait, c'est un concurrent immédiat de Meta, WhatsApp et autres. Mmh. Mais comme vous l'avez dit, effectivement, il y a 1 milliard d'internautes qui sont régulièrement sur WeChat, donc c'est absolument considérable. Et sur ce milliard, c'est difficile pour un chercheur occidental de le savoir avec précision, mais on pense qu'il y en a au moins 200 millions en dehors de la Chine populaire, dont, bien entendu, beaucoup d'internautes en France aussi.
Et qui leur sert à quoi ? Parce qu'autant en Chine, on sait que ça sert aux utilisateurs à commander plusieurs services sur une même application sans avoir à chaque fois entrer de nouveaux mots de passe ou la carte bancaire. On peut prendre rendez-vous chez le médecin, commander en taxi. Mais en Europe, ça sert à quoi ?
Alors, c'est un outil politique absolument extraordinaire. Dans la mesure où, encore une fois, c'est le poids du nombre, mais aussi ça permet de diffuser toute une série de messages, sachant que derrière, il y a des opérations de censure qui sont extrêmement sophistiquées. C'est-à-dire que, là c'est pareil, on ne peut pas le savoir avec précision, mais on pense qu'il y a à peu près 200 000 petites mains en Chine populaire qui sont là pour veiller à ce que les messages qui circulent sont orthodoxes et non pas hétérodoxes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas critiques du régime chinois. Alors, si à un moment donné apparaît justement un message qui n'est pas dans la ligne du parti, ou surtout s'il est très critique, il est effacé en l'espace de quelques minutes, voire 10 minutes. Donc, ça veut dire que ne parvient au destinataire dans la durée que la propagande voulue par le régime politique, donc le Parti communiste chinois.
Donc les messages sont supprimés, c'est une chose, mais leurs émetteurs, qu'est-ce qu'il peut éventuellement leur arriver ensuite ?
Je pense qu'en Chine, là, c'est avéré, ceux qui vraiment sont compétents en la matière sont à peu près tous du même avis. En Chine, ils ont les moyens d'identifier la personne qui est à l'origine du message, même s'il se cache derrière un pseudo. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde le sait en Chine, beaucoup de prudence. Alors pour l'étranger, c'est un peu plus compliqué, mais moi je suis d'avis qu'ils ont aussi les capacités technologiques d'identifier les émetteurs des messages. Donc si vous voulez, évidemment, là aussi je pense qu'on commence à le savoir, s'il y a des paroles ouvertement dissidentes ou ouvertement critiques, ça permet d'identifier les émetteurs, les auteurs de ces messages, et donc ensuite de les menacer et autres.
De les menacer, voilà, parce que c'était la question que j'allais vous poser, Pierre-Antoine Donnet. Nous sommes en France, dans un État démocratique, avec normalement, en ce qui concerne les communautés chinoises, des policiers qui sont aussi censés assurer leur sécurité, même si beaucoup disent ne pas se sentir suffisamment protégés. Il y a eu beaucoup de manifestations en ce sens, mais quand des membres de la communauté chinoise, comme par exemple Gulbar Jalilova, c'est ça, une Ouïghour qui a échappé à une tentative d'enlèvement en mai dernier, c'était juste après le passage en France de Xi Jinping. Peut-être on peut expliquer ce qui s'est passé et surtout savoir dans quelle mesure on peut imaginer que WeChat est peut-être en cause, ou de toute façon comment les membres de la diaspora chinoise en France sont inquiétés au même titre que d'autres qui sont restés en Chine.
Alors d'abord, effectivement, quelques mots sur cet épisode qui a quand même été, je dirais, révélateur de méthode de la police chinoise en France à travers des officines et qui ont été ouvertes dans une cinquantaine de pays. Et ces pays l'ont réalisé peu à peu, et maintenant elles sont en train de fermer du fait des décisions de ces gouvernements intéressés.
Pour des questions de souveraineté, voilà. On en parlait dans Culture Monde il n'y a pas très longtemps.
C'est ça. Et donc, pour le cas de cette Ouïghour, c'est une dame qui a donc connu l'internement dans des camps de travail dans le Xinjiang, qui autrefois s'appelait le Turkestan oriental, et qui a vécu des horreurs. Et donc, quand elle a réussi à prendre la fuite et à se réfugier maintenant en France, elle a très longuement témoigné sur ce qu'elle a vécu. Elle a témoigné à visage ouvert et devant des caméras. Et donc, elle était une gêne potentielle considérable pour le régime chinois, parce qu'elle présentait un aspect du régime qu'on veut cacher.
Oui, avec ou sans WeChat, en fait.
Voilà, l'ancien ambassadeur de Chine populaire, qui maintenant est parti, Monsieur Lou Chaye, a toujours démenti en disant que ce sont des affabulations. Donc, ces témoignages en direct devant les caméras, à vrai dire, non seulement apportaient une répartie, mais aussi étaient crédibles. Donc, un jour, elle s'est retrouvée en ouvrant sa porte devant un certain nombre d'individus. Ils étaient une dizaine.
Tous habillés en noir.
Tous habillés en noir. Et elle a compris. Et donc, très rapidement, la police est arrivée sur place et a constaté que dans ces personnes-là, il y avait un membre de l'ambassade de Chine populaire.
Et certains qui parlaient français, donc peut-être aussi des membres de la diaspora chinoise
alors,
en France, on ne sait pas.
Oui, alors ça par contre, je ne peux pas vous le dire, parce que je ne suis pas vraiment documenté pour pouvoir vous l'affirmer. Mais en tout cas, ça a été un signal d'alerte pour toutes ces communautés, pour certaines précaires, comme les Ouïghours ou par exemple les Tibétains. Donc si vous voulez, parmi les cibles de ces messages, ou en tout cas de ces témoins ou de ces dissidents, de ces activistes politiques, il est très important pour le régime chinois, qui a pour obsession la surveillance. Elle est considérable en Chine populaire, on le sait. C'est d'identifier les critiques du régime à l'étranger, y compris en France.
Merci beaucoup Pierre-Antoine Donnet. Vous êtes rédacteur en chef du trimestriel Asia Magazine, dont le deuxième numéro sortira là, à la fin du mois de janvier. Donc dans quelques jours, vous avez écrit de nombreux livres sur la Chine. Le dernier a paru aux éditions Saint-Simon, Chine, l'Empire des Illusions. Et puis aussi Confucius, aujourd'hui un héritage universaliste aux éditions de l'Aube, que je cite parce qu'il est peut-être de circonstance avec le nouvel an lunaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je voulais peut-être faire réagir un tout petit mot. Si Meng Wang, il se trouve que vous venez de d'écrire dans un livre qui n'est pas paru en français mais en anglais, un chapitre sur WeChat, peut-être un tout petit mot sur ce que vient de dire Pierre-Antoine Donnet.
Oui, en fait c'était assez déconnecté, dans le sens en fait je me suis j'ai mené en fait une étude ethnographique en ligne et hors ligne, en ligne notamment dans WeChat, pour essayer de voir est-ce que la population chinoise vivant en France utilise ou pas le WeChat pour se politiser à la vie politique française
et non pas chinoise.
Et du coup c'était à la fois sur est-ce qu'ils se décident d'aller manifester pour après la mort de Liu Xiaoyao en 2017, et aussi est-ce qu'ils vont parler de vote présidentiel de 2017 sur dans le logiciel de WeChat. Et du coup ce qui est sorti, c'est que d'une part je me suis rendu compte que le WeChat est vraiment utilisé comme un outil de regroupement ethnique, et en même temps il y a une performance en termes de classe sociale. C'est-à-dire que les gens qui sont très différents, qui ont des origines sociales très variées, ils ne vont pas se mélanger.
Ah d'accord,
ils ne vont pas se mélanger sur WeChat.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour en parler. Si Meng Wang, sociologue chargé de recherche au CNRS. Merci Emmanuel Santaromana, doctorant au CESP à Paris en Sorbonne, d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale. Et c'est avec vous ce matin, Laura Dulieu, avec à la une de la presse internationale une nouvelle étape dans le retour des Palestiniens dans le nord de Gaza.
Les images sont saisissantes, des dizaines et des dizaines de milliers de Gazaouis sur la route vers le nord de Gaza. C'est une marée humaine qui retourne dans le nord de l'enclave, le long de Wadi Gaza, la côte de Gaza. On s'en rend compte avec ces images filmées par drone depuis le ciel, diffusées entre autres par la BBC. Au sol, quasiment tout le monde est à pied, avec des chariots remplis des seules affaires que les Gazaouis ont pu emporter avec eux. Israël a donc fini par rouvrir le corridor de Netzarim avec 48 heures de retard, souligne CNN. Un retard imputé au Hamas par Israël, explique la chaîne américaine. Le Hamas qui n'a pas libéré une otage civile samedi dernier. Le djihad islamique palestinien a finalement publié hier une vidéo d'elle et elle devrait être libérée cette semaine. Passer ce corridor qui traverse toute la largeur de l'enclave de la frontière avec Israël jusqu'à la mer Méditerranée, ce sont plus de 300 000 Palestiniens, selon le Hamas, qui sont retournés dans le nord de Gaza.
This is an extraordinary day for Palestinians. This is a struggling road. The Israeli army.
C'est un jour extraordinaire pour les Palestiniens, dit ce correspondant d'Al Jazeera, qui montre les milliers de Gazaouis marchant sur une route détruite, une route défoncée où les restes des bâtiments en ruine servent à construire des passerelles pour traverser les cratères creusés par les bombes israéliennes. Une migration massive, spectaculaire, écrit le Washington Post, et qui constitue un renversement de situation par rapport aux premières semaines de la guerre, lorsque l'armée israélienne avait ordonné à plus d'un million de Palestiniens d'évacuer au sud de ce corridor, transformant ainsi le nord, normalement dense et urbain, en une zone de guerre. Un jour que beaucoup qualifient déjà de marche historique, la marche du retour, c'est le cas de Nasser Issam, un jeune homme de 19 ans dont le témoignage a été recueilli par le Washington Post. La marche de ce lundi sera gravée dans l'histoire, dit-il. Un retour tant attendu donc, mais un retour vers quoi ? Que reste-t-il sinon des ruines au nord de Gaza ? Nasser Issam était étudiant en ingénierie informatique. Son université est détruite, de même que tous ses plans de vie et de carrière, dit-il au Washington Post. Lui qui revient pour planter une tente sur les ruines de sa maison avant l'arrivée de ses parents, toujours dans le sud de l'enclave. Rien n'est clair devant moi, dit-il. Il n'y a rien. Maintenant, notre plus grand rêve, c'est de partir à l'étranger.
Gaza n'est donc plus qu'un champ de ruines. Alors pour, entre énormes guillemets, faire le ménage, c'est ce que dit Donald Trump, il faudrait déplacer les habitants en Jordanie ou en Égypte.
Déclaration du président américain qui fait réagir à commencer par l'Égypte et la Jordanie. Le ministre égyptien des Affaires étrangères rejette dans un communiqué cité par CNN tout déplacement forcé des Palestiniens et réitère la position de l'Égypte contre le déplacement de Palestiniens de leurs terres par expulsion forcée. Le ministre des Affaires étrangères jordanien, de son côté, s'engage à garantir que les Palestiniens restent sur leurs terres et insiste, la Jordanie appartient aux Jordaniens et la Palestine aux Palestiniens. Mais la déclaration de Donald Trump ne doit pas être prise à la légère, prévient sur la chaîne Al Jazeera Abdullah Al-Aryan, historien à l'université de Georgetown au Qatar. Il rappelle que cette idée a déjà été formulée depuis un an et demi. Très rapidement, après le 7 octobre 2023, certains responsables israéliens avaient indiqué qu'ils allaient nettoyer ethniquement la plus grande partie possible du territoire palestinien, rappelle le chercheur. La région craint depuis longtemps qu'Israël veuille expulser les Palestiniens de Gaza vers les pays voisins, écrit CNN. Or, il s'agirait avant tout d'une violation du droit international, rappelle le site Middle East Eye. L'idée de Donald Trump a par ailleurs particulièrement plu au ministre d'extrême droite israélien Bezalel Smotrich, qui parle d'une excellente idée. Une étape de plus donc dans la rupture de la politique américaine vis-à-vis d'Israël. CNN rappelle que lors de sa prise de fonction il y a une semaine, Donald Trump avait annulé les sanctions de l'ère Biden contre les colons israéliens, responsables de violences meurtrières en Cisjordanie occupée. Ce week-end, le président américain a également confirmé avoir ordonné au Pentagone d'approuver la livraison de bombes de 907 kilos à Israël, une livraison qui avait été interrompue par l'ancien président Joe Biden.
Dans le sud du Liban, en revanche, Laura, le jour d'après n'a pas eu lieu.
C'est ce qu'écrit le journal libanais L'Orient le Jour. Le jour d'après n'a pas eu lieu, en tout cas pas comme l'espéraient les habitants des villages frontaliers. Ils attendaient avec impatience les cessez-le-feu de novembre dernier et le retrait prévu de l'armée israélienne des dernières zones occupées pour laisser la place à l'armée libanaise. Or, Israël en a décidé autrement, écrit le journal, en annonçant deux jours avant l'échéance vouloir obtenir une prorogation de plusieurs semaines face à des habitants cherchant eux aussi à regagner leur maison en ruine. L'armée israélienne a tué dimanche 24 personnes et en a blessé 124 selon le ministère de la Santé libanais. Hier encore, deux personnes ont été tuées. Un cessez-le-feu au goût amer donc pour les habitants des villages de Marjeyoun et de Binjbeil qui peinent à cacher leur colère contre l'occupant, mais aussi parfois contre une armée libanaise qui n'a pas pu les protéger, écrit L'Orient le Jour. Des premiers signes de désamour loin d'être anodins, poursuit le journal, alors que le Hezbollah redouble d'efforts pour redorer son blason. Depuis le cessez-le-feu, l'armée libanaise s'est déployée dans plusieurs localités du sud Liban, mais certains villages leur restent inaccessibles compte tenu de la présence de l'armée israélienne. L'armée libanaise a donc accepté de repousser l'échéance du retour. retrait israélien jusqu'au 18 février.
Merci beaucoup, Laura Dulieu.